Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. On parle souvent de la parentalité comme s'il n'en existait qu'une. Comme si tous les enfants fonctionnaient de la même façon et comme si les parents n'avaient qu'à appliquer le mode d'emploi. Mais ce n'est pas vrai. Chaque enfant est différent. Et parfois, ces différences sont plus marquantes et nécessitent une attention particulière. Ces différences, Marie les côtoie au quotidien avec ses deux enfants. Pas certaine de vouloir devenir mère, elle s'est pourtant lancée dans l'aventure. Et quelle aventure ! Dès la naissance, elle comprend que ce chemin ne sera pas un long fleuve tranquille, et très tôt, elle sent que quelque chose est différent chez sa première fille. Et en effet, elle reçoit un diagnostic précoce de trouble du spectre de l'autisme, dit TSA, et d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dit TDAH. Mais alors, comment ça se traduit au quotidien ? Marie nous raconte son histoire dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bienvenue sur Prenons un café, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Oui, alors moi je suis Marie. Je ne compte plus mon âge, c'est pas une donnée hyper importante pour moi. J'ai deux enfants et je suis en couple avec leur papa. Et dans la vie, j'exerce le métier de coach parental. J'accompagne les parents du désir de grossesse à la fin de l'adolescence.
Trop cool. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ?
Eh bien, non. Pas toujours. En fait, avant de le devenir, ou même avant que ça devienne un projet avec leur papa, j'avais la croyance sur moi que j'allais pas être un suffisamment bon parent, que j'allais pas savoir faire, que mes enfants n'allaient pas m'aimer, que j'allais pas réussir à les aimer non plus, et que du coup, ça allait pas être une expérience pour moi. Et finalement, j'en ai deux, et j'accompagne des familles avec leurs enfants toute la journée, donc. Il y a eu un petit retournement. Il y a peut-être un truc. Il y a eu un petit retournement de situation quand même.
Est-ce que tu saurais expliquer, tu sais d'où venait cette peur-là ?
Je pense de mes propres rapports avec mes parents. Et alors, pendant longtemps, je me suis raconté que c'était parce que je n'étais pas à l'aise avec les enfants. Je faisais des babysitting, tu sais, pour gagner des sous, mais en fait, j'aimais pas trop les enfants des autres. Mais je pense que c'était plus par rapport à mon enfant. J'avais pas franchement aimé être un enfant, donc je me voyais pas infliger ça à quelqu'un. Et j'ai pas des super rapports avec mes parents, donc du coup je pense que j'avais un peu projeté que j'allais avoir les mêmes avec mes enfants, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc ça venait de là, je pense.
Ok. Avant de devenir mère toi-même, qu'est-ce que ça voulait dire justement pour toi être mère ?
Il y avait beaucoup de responsabilités. C'était une charge avoir un enfant. C'est un truc. Moi, je voyageais beaucoup. J'étais beaucoup à l'étranger entre mes 20 et 30 ans. Et du coup, je me disais, avoir des enfants, est-ce que tu peux voyager avec eux ? Est-ce que tu peux faire ce que tu veux comme ça ? Est-ce que tu peux changer tes plans ? J'avais pas, matériellement, j'avais pas beaucoup d'attaches. Tout tenait dans une valise. Et je me disais, avec un enfant, tu peux plus faire ça. Donc, il y avait beaucoup de ça aussi en projection. Il y a des choses qui se sont avérées vraies, hein, mais qui m'ont moins dérangée que ce que je pensais.
Et alors, à quel moment dans ta vie il y a eu un changement ? Est-ce que c'est venu d'une discussion ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, un besoin inexplicable ? Comment est arrivé le désir finalement de maternité chez toi ?
Ça n'a jamais été un besoin ou une envie soudaine. Ça a été plus progressif avec leur papa. On est ensemble depuis longtemps maintenant, enfin depuis plusieurs années. Et en fait, je savais que lui avait ce désir d'être père, c'était dans ses projets de vie. Et en fait, quand lui a intégré mes projets de vie, bah, j'ai pris le package, j'ai pris l'homme et j'ai pris le futur papa. Et donc j'ai accepté de tenter l'aventure avec lui, pas parce que j'ai, enfin, pas pour rester avec lui, mais parce que aussi la relation que j'avais avec lui m'apportait plus de sécurité et de confiance et m'a fait voir les choses aussi différemment. Et j'ai pu avoir suffisamment confiance dans le fait que mes projections, c'était des projections et que ça allait pouvoir être différent.
Ouais. À quel moment vous avez décidé de vous lancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversation en disant c'est bon, c'est maintenant, ou c'est venu de façon différente?
Alors lui vient d'une famille traditionnelle comme on l'entend en France. Donc c'était important pour lui d'abord que il me choisisse en tant que personne avec qui il voulait faire sa vie. On était dans une relation, on est passé un peu par toutes les étapes. Nous au début c'était pas du tout sérieux. Ensuite on a emménagé, etc. Et sa carte du monde à lui, le mariage c'était quelque chose d'important. Et il s'imaginait avoir des enfants après être marié. Donc en fait, c'est toutes les réflexions autour de l'engagement et de notre mariage qui ont aussi impliqué les conversations autour du fait d'avoir des enfants. Et aussi moi, hormonalement, la contraception, je commençais vraiment à en avoir marre et mon corps rejetait de plus en plus l'idée d'une contraception hormonale. Donc je l'ai arrêtée et finalement, je suis tombée enceinte très rapidement après. Donc tout s'est enchaîné en fait.
Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si rapide?
Non, parce qu'autour de moi, j'avais plutôt des contre-exemples, des exemples où ça prenait du temps. Et j'étais encore un peu ce fourmillement de scénarios catastrophes où je me disais, non, mais de toute façon, vu que je serai une mauvaise mère, mon corps, il n'arrivera pas à faire de moi non plus un parent, et donc ça va être très long. Et pas du tout.
Ouais. C'est intéressant d'avoir cette vision de toi, enfin, comme
Oui.
tu imaginais toi. Est-ce que quand tu es tombée enceinte, tu avais toujours cette idée-là dans la tête, cette image de toi-là?
Ça a switché. En fait,
Ah ouais.
oui, j'ai adoré être enceinte. Je fais partie des personnes qui aiment être enceinte. Et vraiment, tout d'un coup, même l'image que j'avais de moi a changé. Je me trouvais belle enceinte. C'est un truc, dire que je me trouve belle, même aujourd'hui, c'est compliqué, mais j'y travaille. Mais avant d'être enceinte, c'était impossible. Et là, j'adorais mon ventre, j'adorais les sensations de sentir le bébé bouger, tu sais, au contraire, il y a des femmes qui n'aiment pas ça, moi j'adorais ça. Et je suis tombée en amour pour cet enfant dès le test de grossesse. Donc du coup, il y a eu une très belle énergie et un truc beaucoup plus agréable et beaucoup plus
Ouais.
positif que ce qui était présent avant.
Est-ce que tes peurs et tes angoisses se sont envolées ou pas?
Oui, elles se sont transformées en fait. Je pense que enceinte, non, enceinte, ça allait. J'étais vraiment la warrior mama. C'est plus quand bébé était là, quand ma fille est arrivée, où là, je suis restée un peu en mode warrior. Je m'étais beaucoup renseignée, j'avais beaucoup lu, tout ça, tout ça. Donc j'avais pas mal d'idées de ce que je voulais, du parent que je voulais être. Mais la différence entre le parent que je voulais être et le parent que je suis devenue, ça m'a questionnée, ça m'a posé des difficultés. Et puis, je sais qu'on est là pour en parler aussi, mais ma fille, est née, à des bilans faisant état d'un TSA et d'un TDAH, donc du trouble autistique et du trouble de l'attention avec hyperactivité. Et donc, du coup, j'avais beau chercher le mode d'emploi, je le cherchais pas au bon endroit, et ça m'a mis en échec, donc au niveau des angoisses ou des remises en question de moi-même, ça s'est réactivé très très fort une fois qu'elle était là.
Ça se traduisait comment chez ta fille quand elle était bébé? Est-ce que tu... parce que on parle donc TSA, c'est les troubles du spectre autistique, et le TDAH, tu l'as expliqué, mais c'est des choses qu'on voit dès le départ. Enfin, en tout cas, chez ta fille, est-ce que c'est des choses qu'on a vues dès le départ?
Oui. Et en fait, ce que nous ont expliqué les psychiatres et psychologues ensuite, c'est que souvent, quand on fait un diagnostic précoce, on s'intéresse à l'âge 0-2 ans chez l'enfant, parce qu'il y a déjà des choses qui sont présentes, mais qu'on peut pas de manière évidente rattacher à un TSA ou à un TDAH, mais en tout cas, il y a des signes. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire avec mon mari, c'est que dès la maternité, en fait, la sage-femme nous a dit que ça se passerait d'une certaine façon, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et notamment, elle est née vers 22h, donc quand on est remonté en chambre à minuit, 1h, on nous a dit « Vous allez voir, elle va atterrir et tout, c'est sa première nuit, profitez-en ». La sage-femme a fermé la porte, ma fille nous a regardé, mais vraiment avec ce regard perçant et intense qu'elle a toujours, et elle a hurlé toute la nuit. Donc on était hyper loin de ce qu'on nous avait prédit. Et très tôt, oui, il y a eu des soucis de sommeil, il y a eu ce regard très adulte où, tu vois, je la vois encore dans son transat me regarder et essayer de faire de la télépathie avec moi, essayer de me dire des trucs que je comprenais pas. Donc, il y a eu le sommeil, il y a eu le regard, il y a eu les pleurs, énormément, énormément de pleurs. Elle avait quelques mois et, tu vois, si jamais on changeait une routine, si on changeait quelque chose, c'était vraiment un drame, mais à la minute près. Ou même un soir, je me rappelle, il lui fallait du noir complet pour dormir et on avait des volets où, tu sais, t'as des tout petits trous, enfin c'est des volets électriques et elle te montrait la lumière, elle essayait de communiquer par tous les chemins pour te montrer qu'il y avait un petit truc dans son environnement qui n'allait pas. Donc c'était tout de suite ouais, particulier. Mais en même temps, comme c'était notre première, on n'avait
pas de référentiel.
Ben non.
Carrément. Est-ce que tu parlais de ces particularités avec ton pédiatre ou ton médecin, enfin les médecins qui oui. suivaient classiquement, enfin tous les mois, ton bébé?
Oui, on en parlait. Et en fait, ça a été très compliqué. On a changé de médecin. Moi, je le dis vraiment, dans notre histoire, il y a un pédiatre qui m'a sauvé la vie. Et ma fille avait 1 an. Mais la première année, que ce soit la PMI, que ce soit le pédiatre, que ce soit même les gens autour, tu vois, tu demandes aux autres parents ou à tes propres parents, est-ce que ça c'est normal, est-ce que... Et pendant la première année, tout le monde nous a un peu ri au nez, en fait. C'était un bébé, ça pleure, mais elle grandit, elle grossit, donc en fait, tout va bien, c'est l'allaitement le problème, arrêter de l'allaiter, couper le cordon, arrêter de ci, arrêter de ça. Mais il n'y a pas eu d'alerte avant vraiment de rencontrer sa pédiatre, une nouvelle pédiatre à 1 an, qui elle nous a pris en charge.
Je trouve ça assez fou. Qu'on voit les bébés jusqu'à un an et demi, enfin, même un peu après, enfin, jusqu'à ce qu'ils savent s'exprimer, comme finalement presque des tubes digestifs, qui en fait, tant qu'ils grossissent et tant qu'ils grandissent, ben, tout va bien, alors qu'en fait, ils sont quand même plus que ça. C'est plus que des êtres qui grandissent et qui grossissent. Il y a déjà une grosse part émotionnelle et psychique dès le départ, même in utero d'ailleurs.
Oui.
Et c'est jamais, jamais, jamais pris en compte. Enfin, c'est jamais, j'ai l'impression en tout cas. On pose jamais des questions émotionnelles sur les bébés. On pose jamais des questions d'ordre psychique sur les bébés parce qu'ils savent pas s'exprimer.
Mais bah, c'est le
ils
signe,
savent pas parler.
C'est le signe d'un bon pareil. Professionnel si on te pose ces questions-là. Ouais. Parce que jamais ce serait enlevé du mérite à certains très, très bons médecins. Mmh, oui. Mais c'est vrai que c'est rare.
C'est
en
très
tout
rare
cas,
quand même, ouais.
Voilà, on a mis que 1 an à rencontrer un professionnel qui le fasse. Et je sais que c'est plus rapide que beaucoup de parents en parcours de bilan ou quoi que ce soit, mais ou pas de bilan d'ailleurs. Mais
parce que tu as osé changer, aller chercher un autre avis assez rapidement aussi finalement, parce que parfois c'est difficile de changer de professionnel parce que parfois on est dans des zones aussi géographiques où il n'y a pas de médecins.
T'as raison, on a tu déménagé nous. On a vraiment, on était à l'étranger, on était en Suisse à ce moment-là, et on est rentré à Paris pour être en France avec le système français, un pédiatre qui nous avait été recommandé. On a changé de région parce que dans la région où on était, il y avait une pédiatre et elle était, tu vois, c'était son fief et elle avait
c'est
le
ça.
Monopole.
Mais, ouais, c'est ça. Et puis même en France, tu vois, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler. Enfin, il y a énormément de déserts médicaux.
Oui.
Donc déjà, pour avoir un médecin généraliste, c'est compliqué. Mais alors, avoir un médecin spécialiste, ça l'est encore plus. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir des discours de « il faut changer » quand on vit dans des grandes métropoles, dans des grandes villes. Tu vois, moi, je suis sur la métropole lilloise. Il y a des spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes. En plus, c'est une zone où on a une fac de médecine, on a ce genre de choses. Donc, en fait, il y a énormément de disponibilité. sur les médecins, mais c'est quand même c'est assez exceptionnel. Il faut être dans un milieu urbain, en tout cas pour que ce soit le cas, beaucoup plus que quand on est en campagne ou ce genre de choses. Donc, dire de changer, c'est oui, c'est une solution, mais c'est pas si simple en fait.
C'est pas si simple par rapport à ce que tu évoques, la zone dans laquelle tu habites, et aussi parce que l'autorité médicale, la remettre en question, c'est compliqué aussi. Hein.
Ouais.
Donc il faut changer, parfois tu peux avoir du mal à te dire ok, ça ira mieux avec quelqu'un d'autre. T'as tendance à croire aussi ce que te dit. Enfin, moi perso, c'était mon cas. Quand pendant un an elle m'a dit mais non, c'est l'allaitement le problème, couper le cordon, elle va bien, c'est normal. Il a fallu que j'arrive à un état, moi, émotionnel très, très avancé où j'étais vraiment très, très mal pour dire non, mais en fait, stop, on fait autrement.
Puis c'est dur de se faire confiance quand quelqu'un nous dit qu'on a tort.
Oui.
Enfin, entre guillemets, c'est ça, en fait.
Oui, oui.
Et qu'est-ce qui a été différent avec cette nouvelle pédiatre ?
L'écoute, déjà. Et ensuite, le fait d'être cru. Parce que... je pense que autour des neuroatypies, si jeunes, on peut facilement et souvent dire mais ça passera avec l'âge, c'est comme ça, ou alors c'est toi qui t'y prends mal, etc. Là, elle a pas eu ce discours-là. Elle a mis une main sur mon épaule et elle a dit il y a un truc qui va pas et on va découvrir ce que c'est. Et elle m'a, en tant que pédiatre généraliste, elle m'a envoyé voir un ORL, un gastropédiatre, un psy. Et on a fait le tour ouais. pour explorer, pour regarder ce qui pouvait se passer.
Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait à toi d'être cru en tant que mère, dans ta posture de mère ?
Ah ben, je me rappelle d'un énorme soulagement, de retrouver de l'espoir que ça allait évoluer, que ça allait changer, parce que moi mon quotidien à ce moment-là il était vraiment très compliqué. J'avais pas réussi à reprendre le travail. On dormait pas. J'étais en privation de sommeil plus. Et du coup, j'étais complètement asservie à cette parentalité. Et c'était carrément pas confortable. Donc oui, elle a relancé beaucoup d'espoir. Elle a apporté beaucoup de soulagement. Et puis surtout, un plan d'action dont j'avais besoin, tu vois.
Ouais. Et avec ton mari, est-ce que vous en parliez ? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde ?
Oui, et voire même lui avait pressenti déjà beaucoup plus de choses. C'est intéressant, je pense aussi, de parler de comment tu reçois la neuroatypie de ton enfant. Parce que pour lui, ça a été, je pense, j'interprète que ça a été plus simple pour lui. Et lui, déjà dans sa première année, disait « Mais est-ce qu'elle n'aurait pas de l'autisme, etc. ? Est-ce qu'elle ne serait pas autiste ?» Et c'est vrai que... c'est des mots, même moi, je pense, hein, je le dis, je l'assume, c'est des mots que j'étais pas prête à entendre et j'avais beaucoup de représentations derrière ça et je me disais, non, elle nous regarde dans les yeux, par exemple, tu vois, ce grand cliché de l'autisme. Et je pense que je sais que ça a été difficile pour moi d'aller sur cette, de voir l'autisme chez ma fille.
Ouais. T'avais, ou même lui, enfin, parce qu'il avait plus de facilité, vous aviez des notions sur le sujet ? Vous aviez fait des recherches un petit peu ?
Non, à ce moment-là, non, pas trop. Enfin, je te dis ça, oui et non. Disons que c'est marrant, parce que moi, avec ma casquette, avec mon métier, c'est des choses où j'avais de la théorie. Mais avec ta casquette de parent, c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, oui, j'avais un petit peu de théorie. Après, ça a énormément évolué sur les neuroatypies et le niveau d'information, notamment dans l'expression chez les garçons et chez les filles, parce que ça, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet.
Ouais.
Et donc, du coup, on est plutôt allé chercher de l'info, qui est, je trouve... Alors maintenant, comme je suis parent d'enfants neuroatypiques, j'ai l'impression que l'info est dispo de partout, mais je sais bien que c'est un gros biais que j'ai. Mais on n'avait pas tant d'infos que ça au début.
Ouais. Tu peux nous parler justement de ces différences entre les filles et les garçons. Pourquoi les garçons sont plus facilement diagnostiqués, en tout cas, que les filles ?
Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que déjà, comme on parle d'un spectre, que ce soit garçon-fille, même au sein des garçons et au sein des filles, il y a énormément de différences dans l'expression du trouble autistique. Mais c'est vrai que si on part dans des généralités, on va représenter l'autisme chez les garçons comme avec des clichés, il ne peut pas regarder dans les yeux, il a beaucoup de stéréotypie. Tu sais, c'est du flapping, par exemple, quand tu secoues les mains très fort, ils vont pas avoir d'amis, ils vont pas réussir à connecter, etc. Et en fait, le trouble autistique, c'est surtout un trouble de la communication et de la socialisation à plusieurs niveaux. Mais chez les filles, ça va être des symptômes qui vont être plus socialement associés au sexe féminin ou qui vont être moins tranchés. Ma fille, par exemple, les difficultés de socialisation qu'elle retrouve, c'est qu'elle est trop. Elle ne sait pas poser sa limite. Elle est trop vers les autres. Elle est trop à avoir besoin toujours d'être en connexion avec les autres alors que ça l'épuise et qu'elle n'arrive pas à doser chez elle le niveau d'interaction. Enfin, je te dis ça par rapport à ses pairs, par rapport aux enfants, parce que par rapport aux adultes, en revanche, elle va être très très piquée sur qui s'occupe d'elle et qui peut lui parler. Et au contraire, tu vois, on a mis très très longtemps à réussir à passer le relais. Elle pouvait vraiment ne pas vouloir que même une grand-mère ou une tante s'occupe d'elle. Il fallait sa personne de sécurité qui connaisse son mode de fonctionnement, sinon c'était inenvisageable pour elle. Donc du coup, c'est vrai que dans le spectre, déjà, ça s'exprime différemment, quel que soit le genre, mais qu'en plus, chez les filles, on va coller des étiquettes. Elle est super timide, elle n'est pas à l'aise, ou qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre. Mais des choses, en fait, qui... Enfin, là, en l'occurrence, je te disais que ma fille n'était pas timide, mais dans le spectre autistique et chez les filles, on va peut-être voir ça comme ça, ou alors elle regarde dans les yeux, donc c'est OK. Sauf qu'en fait, quand tu regardes de plus près, les filles peuvent soutenir peut-être... Je sais pas, hein, ça, statistiquement, mais peut-être soutenir plus facilement le regard qu'un garçon. En revanche, en fonction des émotions qu'elle a, moi, ma fille, elle n'arrive plus à regarder dans les yeux. Donc, en fait, on a les mêmes choses chez les filles, chez les garçons, mais parfois pas au même moment ou pas au même degré. Et pour autant, ça traduit quand même des choses et ça peut être raccroché au spectre autistique.
OK. À quel moment les mots ont été posés pour ta fille ?
Alors, elle avait, parce que les parcours sont un peu longs pour avoir les bilans, etc. Et encore, nous, on a eu le privilège de pouvoir le faire en libéral, mais si tu le fais à l'hôpital, tu peux avoir des délais très longs. Elle avait un peu plus de 4 ans, okay. Ce qui est considéré comme un diagnostic précoce, puisque avant 6-7 ans, c'est parfois difficile en fait de détecter TSA et TDAH.
Ouais. Justement... C'est beau, cette transition. Est-ce que, enfin, donc il y a TSA et TDAH, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre les deux ?
Oui, alors du coup, le spectre autistique, ce serait plus un trouble de la communication et de la socialisation. Et le TDAH, c'est plus de l'attention. Donc, alors, moi, je ne suis pas médecin. Hein, et même les familles que j'accompagne, je ne suis pas spécialisée sur la neuroatypie. Donc, c'est vraiment, je retraduis ce que moi, j'ai compris. Le TDAH, moi, je le vois plus comme vraiment... c'est aussi un mode de fonctionnement cérébral, neuronal. Mais le TDAH chez ma fille, ça va plus être une enfant qui tient pas en place, une enfant qui... En fait, il y a tellement de ponts entre le TSA et le TDAH qu'il y a quand même des choses qui vont faire écho, mais ça va être plus dans son corps et dans son organisation un peu... comment je pourrais te les distinguer ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu retrouves chez les deux.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile. Enfin, que les mots sont parfois difficiles à poser parce qu'il y a des similitudes entre les deux. Mais en même temps, tu peux aussi avoir un TSA et pas un TDAH et inversement.
Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui me fait dire que chez ma fille, il y a les deux ? Bon, je t'avoue que j'ai surtout trouvé beaucoup de sens dans le mot de son psychiatre et du neurologue qui nous a suivis. Et qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à distinguer les deux. Mais moi, je sens bien la différence en interne, mais j'ai du mal à le traduire.
C'est dur à expliquer.
Ouais, c'est très dur.
Ouais, je peux comprendre la difficulté à expliquer parce qu'en fait, le TDAH, je connais un petit peu pour le vivre de l'intérieur, pour le coup. En fait, c'est dur de mettre les mots et même face aux professionnels. C'est dur d'exprimer. C'est dur de dire ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu sais tellement ce que c'est.
Oui.
Tu sais tellement... Et qu'en fait, c'est dur de trouver les mots pour l'expliquer. Parce qu'en fait, en vrai, je crois que si tu ne le vis pas, tu ne le comprends pas vraiment.
C'est ça.
C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il y a plein de choses qui... Tu pourrais dire, bah, ça fait ça, ça, ça. Et il y a des personnes qui vont dire, bah oui, bah, ça va, quoi. Enfin, c'est pas...
Ou moi aussi.
C'est... Ouais, voilà. Alors qu'en fait... C'est un peu plus que ça et c'est ça. Hyper dur à retranscrire. Et je pense que c'est pour ça aussi que les personnes qui ont ces troubles entre elles se reconnaissent vachement bien et arrivent à se comprendre sans même mettre les mots. Parce qu'en fait, elles savent ce que c'est et de l'intérieur sans avoir à expliquer. Quand des personnes neurotypiques vont avoir vraiment du mal à comprendre ce que ça veut dire. Donc c'est hyper dur, donc désolé les auditeurs et les auditrices si c'est compliqué de l'expliquer, mais voilà, mais je trouve qu'en lisant des supports c'est plus facile peut-être à comprendre.
Et je trouve aussi qu'il y a une notion d'intensité et de fréquence qui joue, c'est-à-dire que oui, il y a des choses que les neurotypiques pourraient vivre aussi, mais en termes d'intensité et de fréquence, c'est pas la même chose que chez les neuroatypiques.
C'est ça. C'est tout le temps, ça s'arrête jamais. qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et dans la vie de votre fille, ces mots-là, quand ils ont été posés ?
Ça a changé énormément de choses. Il y a eu du positif et du plus difficile. Moi, en tant que parent, il y a eu à la fois du soulagement de pouvoir comprendre son fonctionnement. Parce que j'étais tellement en boucle à essayer des trucs, en plus, en tant que coach parental, mais c'est l'horreur, parce que tu te dis, attends, du coup, j'accompagne des familles, ça marche quand j'accompagne, et quand je m'accompagne, ça marche pas. Donc, c'est quoi l'histoire? Donc, j'ai arrêté de m'épuiser là-dessus. Donc, il y a vraiment eu un soulagement, il y a eu vraiment une direction. OK, donc elle fonctionne comme ça, donc c'est ça qui va fonctionner pour que je puisse l'accompagner au mieux. Donc, gros soulagement. Mais je dois avouer aussi, parce que je trouve que c'est important de le dire pour tous les parents d'enfants neuroatypiques qui nous écouteraient, c'est que il y a eu un peu de découragement. J'ai longtemps cru, espéré, ou je sais pas quel serait le bon mot, que j'allais trouver le bouton magique pour que ça s'arrête. Et là, pour la réparer ou pour la comprendre ou pour la soulager, c'était plutôt pour la soulager parce que je la sentais en souffrance. Mais j'aurais aimé avoir un bouton magique. Et là, il n'y en a pas, en fait. Elle sera TSA et TDAH toute sa vie. Donc, il y a eu aussi pas mal de découragement en mode, OK, donc en fait, j'aurai pas de solution miracle. C'est un accompagnement sur la durée qui va se mettre en place. Et des peurs aussi pour elle. Parce que du coup, tu te dis, OK, on va pas rester dans la petite enfance. Après, il y aura les apprentissages à l'école, il y aura la socialisation adolescente, il y aura le choix d'un métier, il y aura tout un tas de trucs. Et en fait, tu sais bien sûr qu'il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour que ce handicap invisible ne soit pas trop envahissant. Il y a des choses, et c'était génial d'avoir un bilan précoce pour ça. Mais voilà, en tant que parent, tu peux pas t'empêcher d'avoir des peurs supplémentaires par rapport à ça.
Carrément. Et comment ça se passe au niveau de la scolarisation ?
C'est complexe. La première année de petite section. Alors, elle était dans une crèche. Il y a beaucoup de débats autour des crèches privées en ce moment. Donc, je vais prendre le contre-pied. Elle a été dans une crèche privée exceptionnelle. Vraiment, on l'a pris telle qu'elle était et ils ont adapté les choses autour d'elle. Donc, vraiment, elle a eu du coup 2 ans. Elle est allée à la crèche à partir de ses 1 an. Ça s'est très bien passé. Mais c'était l'exception. Je m'en rends compte maintenant qu'elle est en grande section. La petite section, on l'avait mise dans une école qui avait une unité Ulysse. Alors, pas pour elle, mais parce que ça nous donnait un peu l'état d'esprit de l'école en se disant, bah, du coup, on va pouvoir la regarder telle qu'elle est et puis éventuellement faire des petits ajustements si possible. Mais c'était très marketing, hein, cette unité Ulysse, malheureusement. Ça s'est pas du tout bien passé avec sa maîtresse de l'époque qui prenait, ça fait un lien avec ta question précédente, qui prenait son atypisme pour une mauvaise éducation ou pour une enfant qui voulait se mettre en opposition. Et donc, du coup, plutôt que d'essayer de la comprendre, il y a eu énormément de violences éducatives ordinaires ou pas. Enfin, moi, pas ordinaire, je trouve. Et du coup, la première année a été très compliquée. On a décidé, du coup, en moyenne section, de la mettre dans une école spécialisée, donc une école alternative qui recevait exclusivement des enfants neuroatypiques.
Ok.
Mais là aussi, ça a été compliqué. Le projet était fabuleux, est fabuleux. Mais être prof, déjà, c'est un métier compliqué. Mais prof d'enfants neuroatypiques, d'avoir une classe de neuroatypiques, c'est level up, quoi. Ouais. C'est vraiment, ils sont au-dessus, quoi, les profs qui ont ces projets-là. Et du coup, on est tombé sur une année où les profs se sont épuisés. Il y a eu énormément de burn-out. Et donc, elle n'a pas eu de continuité avec des adultes qui pouvaient la sécuriser. Et les enfants neuroatypiques, si je fais des clichés, encore une fois, juste pour simplifier le propos, tu as ceux qui sont super empathiques et qui sont plutôt discrets, en retrait. Et puis, tu as ceux qui peuvent, au contraire, pouvoir être un peu violents ou agressifs dans la manière d'exprimer leurs émotions. Et elle s'est trouvée un peu coincée entre ces deux profils-là. Elle a de nouveau reçu de la violence, mais cette fois pas de la part d'adultes, de la part d'autres enfants. Mmh. Et en fait, avec son papa, la question a vraiment été, OK, donc est-ce qu'il vaut mieux la mettre dans un environnement de neurotypique avec un accompagnement humain, puisque du coup, qui sont parents d'enfants neuroatypiques connaissent peut-être la MDPH et toutes les aides et accompagnements qu'on peut recevoir de l'État. Ou est-ce qu'elle gagne à être dans cet environnement d'enfants neuroatypiques avec des apprentissages qui soient adaptés, mais en même temps un environnement où elle ne voit que des gens neuroatypiques et donc du coup pas forcément, comme on parle d'un spectre, ils sont pas forcément comme elle, enfin, je mets des guillemets. Finalement, cette année, elle est en grande section, elle vient de faire sa rentrée et on a décidé de la remettre dans un environnement d'enfants neurotypiques avec un accompagnement supplémentaire parce qu'on avait avancé aussi avec la MDPH qui a reconnu son niveau de handicap. Auprès
ça peut
de
être
qui,
très long aussi, ça.
C'est très long.
C'est des démarches très, très longues.
Très, très longues. Et là, on est notamment dans une démarche de demande d'aide humaine. Donc, ce serait quelqu'un qui, à partir du CP, soit avec elle quelques heures par semaine. Alors, c'est un privilège hein, parce qu'ils sont peu à faire ce métier-là. C'est un métier qui est très ingrat et il y a beaucoup de demandes. Donc, notre demande, elle n'aboutira peut-être pas. Mais ça pourrait l'aider à continuer ses apprentissages de la meilleure manière pour elle. Mais oui, tu vois, ça, c'est plein de questions. Hein.
C'est pas simple. Hein. Mais comment tu abordes ça ? Est-ce que tu abordes... ces différences, sa neuroatypie, comment tu l'abordes avec son instit, avec instit ? Parce que là, en plus, on est en période de rentrée.
Oui. Alors, je tâtonne parce qu'en fait, je pense que je me mets à la place des profs. C'est pas évident d'avoir des parents qui arrivent et qui disent « Ah oui, alors mon enfant a des spécificités. » Bon, tous les enfants ont des spécificités, à vrai dire. Oui. Et du coup... Du coup, c'est vrai que moi, alors, en petite section, on était arrivé en mode « on dit rien ». Et donc, on laisse l'instit observer. Et après, s'il y a des couacs, on pourra peut-être lui dire ce qui fonctionne à la maison, voir si elle a envie de tester à l'école. C'était assez naïf, parce que du coup, elle n'a pas été très à l'écoute. Là, du coup, on a fait l'inverse. C'est qu'on a essayé de lui donner plein d'infos. Et je pense que c'était trop, en fait, pour l'instit. Ouais. Donc, on est dans un entre-deux maintenant, c'est qu'on laisse les professionnels qui accompagnent notre fille communiquer les infos à l'école, donc à travers nous. Mais tu vois, je demande un courrier à sa psychologue pour dresser un peu son profil. La psychomotricienne a proposé de passer à l'école pour aménager un peu dans la classe ce qui pourrait être aménageable. Et on pense à l'intérêt du prof, toujours, en disant « c'est pour vous aider à gérer votre groupe, en fait, et à ce que... » ça puisse être vivable pour tout le monde.
Complètement. Qu'elle ne soit pas focus justement sur une seule enfant et que ça pose problème dans la cohésion de groupe.
Ben oui, c'est ça.
Complètement. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Entre guillemets, c'est marrant. Pour un peu... Enfin, parce que moi, tu vois, je vis des choses presque un peu similaires, mais bon, à un degré vraiment, vraiment, vraiment différent de... ma fille a une atypie. On est sur un parcours de justement aller voir un petit peu tout ça et creuser un peu tout ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, au fond, je le sais depuis toujours. Mais tant que personne a mis le mot encore, c'est difficile. C'est difficile parce que tu... moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur avec tout ça, en fait. Tant que personne n'a dit vraiment, il y a un truc... tu peux pas dire mais en fait, ce que je vois et ce que je ressens, est-ce que c'est vrai ? Et je pense que beaucoup de parents d'enfants d'enfants en fait, juste de parents, quand ils voient quelque chose chez leurs enfants, que ce soit des choses qui concernent la neuroatypie, mais d'autres choses, hein, ça peut mm-hmm. être aussi sur des maladies plus physiques en fait, des pathologies. En fait, on a du mal à se faire confiance parce qu'on n'est pas des professionnels. Alors qu'en fait, on est au quotidien avec nos enfants, donc en fait, on voit des choses quand même.
Ouais, moi je challenge. Au-delà du fait qu'on n'est pas des professionnels, je pense qu'on est aussi une génération à qui on n'a pas donné d'impact à nos propres spécificités. Et que du coup, on n'a pas non plus construit une confiance dans notre instinct ou dans ce qu'on était nous-mêmes. Et du coup, ben, s'il y a des choses qui sont en suspens sur nous, tu parlais de ta propre neuroatypie, c'est dur de...
Ouais. Oui.
En plus de ne pas être un professionnel, évidemment.
Oui, mais... Et en fait, même au-delà, tu vois, avec la relation dans le milieu scolaire, ça peut être compliqué parce que tu vois, moi, il y a des choses que j'ai toujours su. Mais en fait, j'avais fait le choix, et on a fait le choix ensemble avec mon conjoint, de pas en parler. Mm-hmm. De pas en parler parce que je voulais pas que, un, on la mette dans une case, déjà, premièrement, et qu'il y ait une différence. Et je voulais pas non plus être celle, ce que t'exprimais un petit peu tout à l'heure, qui allait voir l'instit, dire bah en fait mon enfant est différent, comme tu sais, c'est la maman de Garance, tu vois.
Oui, totalement.
Tu vois ce que je veux dire un peu ? Alors qu'en fait, c'est pas, c'est pas, c'est ça. Mais c'est pas ça. En plus, c'est tellement pas ça. Mais en fait, en même temps, et après, moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et en fait, ça me brise le cœur presque de dire ça, de dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir d'être dans une école extraordinaire avec des instituts extraordinaires. Mais je pense que quand même, il y en a beaucoup en France, parce qu'on parle, on a tendance à parler toujours de ce qui ne va pas,
oui.
Des aspects, des expériences négatives. Mais il y a aussi énormément, et quand même la majorité des enseignants sont des bons enseignants,
oui.
Je pense. En tout cas, là tu vois, nous, la mienne, elle vient d'entrer en CP, donc elle a eu 4 enseignants différents qui étaient tous exceptionnels.
Génial.
Et en même temps, tu vois, j'ai toujours en train de dire, oui, j'ai de la chance, tu sais, comme quand mon conjoint vide le lave-vaisselle, si tu dis j'ai de la chance, alors qu'en fait c'est censé être un truc normal, tu vois.
Ils n'ont pas la structure pour que ce soit normal,
non.
Malheureusement.
Non.
Mais ça vient pas d'eux.
Bah alors,
c'est important que tu dises que ça vient pas d'eux.
Ça vient pas d'eux. Après, nous, on est dans une ville où justement les moyens sont mis aussi pour les écoles. C'est-à-dire que quand même, il y a plein de choses qui sont faites en termes de mise à disposition de matériel, d'activités. Enfin, je veux dire, ma fille en moyenne section, elle a fait du théâtre. Elle a eu 10 séances de théâtre avec une compagnie locale. Enfin, c'est des trucs comme ça qui sont mis en place et qui sont financés par la mairie, en fait. Donc c'est on a cette chance-là aussi d'avoir la politique de la ville en tout cas qui est en faveur de l'école et de l'éducation, et ça c'est super chouette. Donc
c'est
en fait
clair.
C'est pas juste la faute des instituts, c'est tout un système qui est autour et qui les sécurise pas en fait. Il y a énormément d'instituts qui vont donner des choses et faire des choses sur leur denier personnel, enfin sur leur argent perso, parce qu'il y a pas de financement. Et la majorité des cas, c'est il y a pas de financement, et c'est bien ça le problème. Moi, je suis dans un contexte quand même assez privilégié d'école publique. En plus, c'est une école publique, d'école publique qui a où on est bien, et où en fait elle a été entendue, c'est-à-dire qu'on n'a rien dit mais elle a été prise en compte dans ses spécificités à chaque fois, et c'est, je sais, une grosse chance. Et là on arrive à l'année du CP, et bon, c'est que la deuxième semaine, hein, tu vois, mais l'année du CP elle est quand même différente, et je pense que les divergences entre guillemets, sa différence en tout cas, est beaucoup plus marquée et se voit beaucoup plus ici. Parce que la maternelle, elle était un peu en mode Montessori, un petit peu, donc il faisait un peu... Enfin, tout était vraiment très adapté.
Le cadre est plus contraignant quand tu rentres en primaire.
C'est beaucoup plus normé.
C'est beaucoup plus rigide, oui.
C'est beaucoup plus... Et c'est plus cadré, c'est, tu rentres dans un moule, en fait, on te demande d'entrer dans un moule. Et c'est là, je pense, que ça devient difficile, plus difficile pour les enfants qui sont neuroatypiques. Et en tout cas, moi, c'est la claque que je me prends là sur cette rentrée-là, et je m'y attendais pas. Et donc, j'en ai parlé à l'institutrice qui a été très à l'écoute. Tu vois, au début, j'ai rien voulu dire. Et c'est parce que là, il y a une séance de cinéma, et c'est tout un sujet, le cinéma pour mon enfant. Et donc, j'ai été obligée, en fait, d'en parler, parce que ma fille elle a dormi, mais elle n'a pas mangé pendant 2 jours parce qu'elle allait au cinéma. Et ce qui est un moment joyeux pour beaucoup d'enfants, un truc très cool, ben en fait pour elle c'était une source d'angoisse très forte, et je me voyais pas en fait la laisser aller dans cette séance de cinéma sans prévenir en fait. Donc j'en ai parlé à l'institutrice, et avec, mais je crois que j'étais aussi stressée que mon enfant qui allait au cinéma, enfin de dire elle va peut-être me prendre pour la maman de Garance.
Oui.
Et en fait non, pas du tout. Elle m'a dit d'ailleurs quand j'ai dit le mot, je lui ai dit qu'on suspectait un TDAH, parce que pour l'instant il n'y a rien de mis. Elle m'a dit ah bah oui, ça expliquerait certaines choses, et juste qu'elle me dise ça, je me dis ah non, je ne suis pas folle.
Oui, puis ça implique que du coup, elle est renseignée, peut-être formée, ouais. Ce qui est très rare aussi. Mais en tout cas, le fait que tu fasses ça, c'était protecteur pour ta fille. Parce que son niveau de stress, il avait l'air tellement élevé que, imagine, elle aurait, son émotion aurait dégoupillé, ou son stress plutôt, en pleine séance ou quoi. La maîtresse, elle aurait pu se retrouver complètement démunie aussi. Donc en fait, être la maman de Garance, parfois, c'est pour protéger. Oui, c'est pour protéger aussi son...
Ouais.
Son enfant, et c'est notre rôle aussi. Hein.
Bah, c'est ça. Et puis de ne pas avoir peur de passer pour... Parce que tu vois, elle est allée au cinéma avec son casque anti-bruit. Parce que c'était nécessaire. Alors oui, elle a eu des questions des enfants. Mais des questions d'enfants, en fait, c'est bienveillant aussi, des questions d'enfants. Et donc, elle a juste répondu.
C'est génial que les autres enfants voient ça aussi.
Voilà, à dire, mais qu'est-ce que c'est, machin, tout ça. Et elle m'a dit, ouais, des copains, ils ont demandé. Alors, j'ai expliqué et tout. Donc, en fait, je peux comprendre, tu vois, qu'on ait peur de dire... Mais en fait, je pense que c'est nécessaire, en fait, parce que les profs, en fait, sont avec nos enfants quand même toute la journée. Ils les encadrent, tout ça. Et en fait, il faut leur donner un maximum de clés, même si ça peut paraître beaucoup dès le premier jour. Tu vois, nous, on a voulu laisser passer aussi une semaine pour pouvoir prendre la température. On n'a pas dit tout de suite. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette séance de cinéma, on ne l'aurait pas dit tout de suite non plus. C'est l'occasion qui a fait que. Mais en même temps, je suis ravie finalement que ça se soit passé comme ça, parce que je pense qu'elle va être prise en compte dans sa globalité. Et que quand on aura fait toutes les démarches et qu'on aura un mot potentiel sur ce que c'est, on pourra en parler avec elle et il y aura des choses qui seront mises en place, tu vois. Et je trouve ça vraiment génial, en fait.
Mais je pense qu'on peut tout dire, c'est la manière dont tu le dis, en fait. Et la manière dont... Et quel est ton objectif quand tu dis ça? Si là, ton objectif, c'est de donner de l'info à la maîtresse pour qu'elle gère mieux son groupe, parce qu'elle a une enfant qui va être hyper stressée, que c'est important pour elle qu'elle sache qu'elle va avoir une enfant particulièrement stressée, que pour ta fille, c'était aussi une manière de mieux profiter de ce moment-là et de s'intégrer, etc. C'était juste de le dire.
Ouais, carrément. Bon, revenons à nos moutons. tu le disais en préambule, tu as deux enfants.
Oui.
Est-ce que tu imaginais une parentalité multiple dans tous les cas, ou est-ce que, comment elle est venue, cette envie de deuxième enfant ?
Oui, en fait, c'est parce que j'envisageais pas une parentalité d'un seul enfant que j'ai eu un deuxième enfant. Parce qu'en fait, c'était tellement compliqué d'avoir un premier enfant que si j'avais pas eu déjà cette vision d'en avoir deux, je pense qu'on se serait arrêté à un, mais j'avais très très envie d'avoir deux enfants. Et quand je suis tombée enceinte la première fois, j'ai dit à mon fœtus, à mon bébé, alors toi, tu es le premier ou la première, et il y aura quelqu'un d'autre après. Donc, dès le début, en fait, j'avais ce deuxième enfant dans mon cœur. Et je suis très... C'était bold un peu. Hein, c'était quand même assez osé. À ce moment-là, on dormait absolument pas, on n'avait pas fait les bilans, on n'avait pas le mode d'emploi de l'aîné. Mais je suis très, très heureuse que ce deuxième enfant ait rejoint la famille, parce que ça a apporté finalement un grand équilibre. Alors, ce n'était pas mes attentes, hein. C'est ce qui s'est passé, mais ce n'était pas mes attentes. Après, par rapport à la neuroatypie, ce qui est particulier, c'est que du coup, notre deuxième n'a pas de bilan à date, mais que je suis en train de sortir de mon déni et je pense qu'elle en aurait besoin. Parce qu'encore une fois, son papa est plus avancé que moi là-dessus et dit « Ah bah non, mais en fait, on est dedans, hein. » D'accord. <Ouais. rire> Donc moi, j'ai un peu plus de mal. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir les différences. Déjà, entre deux enfants, c'est deux personnes différentes, avec des neuroatypies qui s'expriment certainement aussi différemment. Et de voir l'impact que ça a sur moi. Tu vois, de dire, bah, peut-être, j'aurais pu imaginer qu'un deuxième enfant, vu que j'avais fait le chemin pour la première, ça aurait pu être plus facile et intégré pour moi qu'elle ait des spécificités. Et en fait, j'ai analysé ça un peu l'autre jour. Je pense que c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que l'étau se resserre sur mes propres spécificités. Parce que statistiquement, sur le TDAH notamment, il y a des chiffres très clairs que 75% des parents qui ont un enfant TDAH le seraient. Donc, c'est plus d'un parent sur deux. Et du coup, ça m'a fait un peu cet effet-là. Alors, si j'ai deux enfants neuroatypiques, je ne peux pas non plus tout mettre sur mon mari. Non, tu es le seul neuroatypique de la famille. Mais ce qui ferait de moi l'atypique de la famille en étant la seule neurotypique, finalement. Ouais. Mais tu vois, ça vient un peu chercher des sujets perso, en fait. Et je ne veux, veux pas que ça retarde les bilans de ma seconde, mais j'observe que ça m'interroge.
Je comprends beaucoup cette histoire de déni, parce que, en fait, tu vois, pour autant, moi, j'ai été beaucoup dans le déni pour moi. Mm-hmm. Ce qui a causé un déni pour ma fille, en fait.
Oui, toi, t'as eu l'inverse.
Ouais, ça a été l'inverse. Et puis, en fait, pour la petite histoire, le mot neuroatypie, il est dans ma tête depuis 3-4 ans. Parce que mon conjoint est allé voir, justement, quelqu'un qui était spécialiste des atypies et qui lui a constaté une neuroatypie chez lui.
OK.
Et donc, il m'en avait parlé à l'époque. Et moi, j'étais genre, non.
C'est toi.
Ça n'existe pas, c'est toi. Et j'ai été très intolérante à toutes les manifestations de son atypie. Mm. Jusqu'à encore très récemment, j'étais très intolérante dès qu'il y avait une manifestation de son atypie, des choses qu'il fait, qui sont systématiques et qui sont reliées à ça. Jusqu'au jour où, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est comme un flash, comme d'un coup, genre, mais oui, mais c'est bien sûr. Et puis je lui dis ça, tu sais que quand même, ça fait 4 ans que je te lis. Je fais... Oui,
tu vois. Il y a un temps d'incubation.
Écoutez, ça prend du temps chez moi. Mais voilà, et du coup, ça m'a poussée à être dans le déni pour mon enfant.
Et le déni, c'est une étape du deuil. Donc, tu fais un deuil particulier, tu fais un deuil de l'image que tu as de toi ou de ce que tu penses, ce que tu imaginais de ton fonctionnement qui n'est pas tout à fait ajusté. Donc, c'est inconfortable aussi de se rendre compte de tout ça. Et donc, le déni, il protège quelque part. À un endroit, il protège, quoi.
Ouais. Carrément, carrément. Est-ce que quand quand vous êtes lancée dans cette aventure, quand tu étais enceinte de ta deuxième fille, est-ce que tu y pensais à ça? Est-ce que c'est des choses qui te faisaient peur, le fait que ça se reproduise, ou est-ce que pour toi, c'était pas possible, tu vois?
Oui et non. En fait, au moment où j'ai été enceinte la deuxième fois, ce qui pêchait vraiment, c'était le sommeil. Et donc, je me disais, en fait, j'ai ce désir de deuxième enfant. J'avais pas de désir d'enfant, mais quand j'en ai eu un, j'ai eu un désir de deux enfants. Et en fait, j'y tenais tellement fort à ce désir-là que, vu qu'on ne dormait pas avec la première, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'au moment où elle va se mettre à dormir, never, je recommence. Je ne reprends pas le risque. Je ne relance pas les dés avec un enfant qui ne dormirait pas comme ça pendant des années. Donc, j'avais un peu cette conscience qu'un deuxième enfant, potentiellement, je faisais une croix de nouveau. Enfin, pas de nouveau, parce que ça ne s'était pas arrêté, mais encore plus longtemps, je rallongeais un peu mon temps pour retrouver du sommeil. Et en même temps, j'avançais quand même dans le projet avec l'idée que ce serait différent, que cette fois, j'avais appris d'une certaine manière à être parent, donc il y avait des choses que j'allais faire différemment. Et... Donc, il y avait un peu un mélange. Ouais. Il y avait un peu les deux en même temps.
T'en parlais tout à l'heure, la routine est quelque chose d'assez important pour les personnes neuroatypiques, mais particulièrement en tout cas chez ta fille. Mm-hmm. Avoir une petite sœur, ça change ta routine. Est-ce que ça... Enfin, la petite sœur a été acceptée facilement?
C'était hallucinant, mais oui. En fait, c'était pas incompatible l'amour qu'elle apportait à sa sœur hyper naturellement et le fait que ça la dérègle complètement, ça la dérégule émotionnellement en fait. Parce que justement, dans le trouble qu'elle a, que ce soit des émotions désagréables, on parle souvent des colères et des frustrations, mais les émotions agréables aussi dérégulent énormément. Et donc, ce shot d'amour qu'elle a pris, en plus de changer sa routine, etc., ça aussi, ça l'a beaucoup impacté et beaucoup perturbé. Donc, oui, ça a été costaud. Après, encore une fois, je ne peux pas comparer l'arrivée d'un deuxième dans notre famille à une famille qui aurait des enfants neurotypiques. Là, pour le coup, ma casquette de coach m'a pas mal aidée, parce qu'on a donné de la prévisibilité, comme ta fille au cinéma. On a donné énormément de prévisibilité, on a donné énormément de sécurité, j'ai anticipé énormément de choses. Mais après, la vie, hein, t'as beau anticiper, il s'en passe des choses. Et endormir deux enfants avec une qui a un trouble du sommeil et l'autre qui a un tout petit bébé qui s'endort pas aux mêmes heures, pas-ci, pas-là, ça a été costaud de chez costaud.
Ouais.
Mais bon, je pense que justement, d'être un peu inconscient de ça, de tout ce que ça pouvait générer, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir un deuxième, parce que si j'avais eu vraiment conscience de ça, je sais pas si je l'aurais fait.
Ouais.
Je regrette pas de l'avoir fait, mais ça a été super dur.
Ouais, carrément. Est-ce que tu t'es pas perdue, toi, en tant que personne,
si,
dans cette maternité-là?
Alors, je me suis perdue, je me suis trouvée. En fait, la naissance de mon premier enfant, il a quand même allumé la lumière dans la pièce. Donc, clairement, elle est allée réveiller... Enfin, c'est pas elle, je veux pas lui mettre ça sur le dos, mais ma parentalité a réveillé énormément de choses. Et notamment, tu vois, sur la question de ma potentielle neuroatypie, eh ben, je peux commencer à me poser la question maintenant parce que j'ai surtout traité les premières années de mes traumas. Mmh. Ça a réveillé énormément de traumas, la parentalité. De la manière dont j'ai été éduquée, des manques que j'ai reçus, des événements de mon enfance qui me sont arrivés à moi et que je voulais pas qu'il arrive à mes enfants. Donc, je me suis perdue dans tout ça parce que ça faisait trop, en fait. À la fois prendre ce nouveau rôle de parent, trouver le mode d'emploi d'un enfant neuroatypique, avancer sur ses propres traumas d'enfance, ça a fait trop. Tout ça avec du manque de sommeil et un boulot et tout un tas de trucs à côté. Donc oui, je me suis carrément perdue. Et ça, j'ai changé énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, je suis plus en contact avec ma propre famille et ça me fait du bien. Je veux dire, il y a des histoires dans lesquelles ça peut être dramatique. Moi, ça m'a fait du bien. Je me suis entourée... j'avais déjà de la thérapie obligatoire de par mon métier, mais j'ai renforcé mon travail thérapeutique pour ne pas me laisser aller à la fatalité, aux parents que j'étais, que je voulais pas être. Donc, je me suis trouvée aussi, tu vois. C'est juste que le chemin, il a été... et encore certains jours douloureux. Mais... pour sortir d'un état, il faut y rentrer. Donc, j'y suis rentrée et je m'y suis trouvée aussi.
Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place pour toutes ces questions de trauma? Qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu les as traitées? Parce qu'ils sont arrivés comme ça dans en pleine face, mais est-ce qu'ils sont...
Oui.
Voilà.
Je les ai vus déjà, tu vois. Se dire ces fameuses phrases « j'en suis pas mort, je vais bien aujourd'hui ». J'ai combattu mon syndrome de l'imposteur, en fait. Je me suis... j'ai un peu intégré, en fait, finalement, j'ai trois enfants. J'ai ma petite fille à moi, tu vois, que j'ai intégrée dans ma parentalité. Et elle, je sais qu'elle est là quand j'ai des vieux réflexes qui sont à l'intérieur de moi, de, je sais pas, de crier ou de pas être le parent que je veux être. Je me dis, OK, en fait, c'est pas que j'ai envie de crier sur mon enfant, c'est que là, ma petite fille, elle a manqué d'un truc, elle a manqué d'impact parce que mon enfant m'écoute pas. Donc, tu vois, j'ai intégré là, et elle m'a permis de dissocier ce qui appartenait à mon histoire de ce qui appartenait au présent dans la relation avec mes enfants. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée. Et je la ramenais en thérapie toutes les semaines. Hein. Je faisais pas l'économie, c'est un sacré budget et un privilège aussi de faire une thérapie. Mais je l'emmenais chaque semaine en thérapie avec moi. Et je disais, bon alors cette semaine, voilà ce qui nous est arrivé. Et je prenais soin de moi, en fait, pour prendre soin de mes enfants. C'est vraiment la leçon que mes enfants m'ont donnée, c'est que je ne prenais pas soin de moi avant d'être parent. Je fonçais dans la vie à faire ce qu'on attendait de moi ou à faire pour les autres, mais je faisais rien pour moi parce que le syndrome de l'imposteur, faire pour soi, c'est mal. Faire pour soi, c'est genre avoir un ego surdimensionné et se prendre pour je sais pas qui. Sauf que quand ta personne est au service d'enfants dépendants de toi, bah, prendre soin de toi, c'est nécessaire, en fait.
C'est cette fameuse image de l'avion. Quand,
et du masque à oxygène. Ouais.
Du masque à oxygène, si les hôtesses et les stewards le disent, c'est... D'abord l'adulte, avant l'enfant. Et ça s'applique à la vraie vie aussi. Mmh. Et surtout, c'était très bien ce que tu as dit. Ça m'a bien parlé. Et je pense que c'est important, en effet, d'aller chercher en fait, le pourquoi du comment. Et dès qu'on sent que de toute façon, il y a un inconfort et qu'on n'est pas bien. La maternité, la parentalité, c'est C'est comme si t'allumais, tu sais, les trucs de dynamite dans les Looney Tunes.
Oui.
Tu vois, tu mets le truc, puis ça s'arrête jamais. Jusqu'à ce que ça
explose. Le fil est très long.
Le fil est très, très long. Jusqu'à ce que ça t'explose en pleine face. Et ça, ça a pas cet effet-là pour tout le monde, hein. Clairement,
il y a des enfants plus paisibles que d'autres.
Bien sûr, et heureusement d'ailleurs.
Oui.
Mais quand on a mis un petit peu le couvercle comme ça toute sa vie, en fait, la maternité peut avoir cet effet-là pour plein de raisons, hein, qui sont physiologiques et aussi environnementales, enfin, plein de choses.
Oui, tu vois, au-delà de l'image de l'avion, moi, ce que j'utilise beaucoup avec les familles, c'est le lait qui boue. C'est-à-dire que t'as une casserole de lait qui boue. Si tu mets le couvercle dessus, ça ne va pas empêcher le lait de déborder. Vraiment, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'éteindre le gaz, en fait, et de comprendre. C'est le pourquoi du comment dont tu parlais. C'est de comprendre ce qui fait que le lait boue et faire baisser. Donc oui, c'est vrai.
Mais encore une fois, c'est ce que tu disais aussi, c'est que c'est un privilège parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, du temps aussi.
Oui.
Au-delà de l'argent, il faut avoir le temps d'aller en thérapie, enfin prendre le temps.
Oui.
Le temps. Tout le monde a 24 heures dans la journée, mais on ne peut pas toujours en disposer volontairement chacun de...
C'est ça.
Enfin, voilà. Donc, c'est pour éviter, tu vois, les discours un peu culpabilisants de dire, en fait, il suffit d'eux. Non, il ne suffit pas d'eux. Ce n'est pas si simple que ça. C'est clairement un investissement en temps, en argent, et puis ça demande du soutien aussi.
Oui. Il faut que tu sois en sécurité pour le faire.
C'est ça, exactement. Quand on fait des enfants en couple, par exemple, il faut que le coparent comprenne aussi et soit pas dans la... Comment dire ? Dans le combat, enfin, dire ben non, en fait, ça n'existe pas, ou enfin, vraiment ce soutien, il est très important. Donc, il faut vraiment être ce que tu disais, c'est ça, c'est d'être dans une safe place, d'être vraiment en sécurité pour pouvoir le faire.
Et sinon, c'est une question de rythme aussi, du coup.
Ouais.
C'est vraiment le prendre petit morceau par petit morceau. Ou d'un coup si on est prêt et qu'on a la sécurité, mais c'est pas de se mettre l'injonction de je veux tout régler maintenant tout de suite, en fait. On fait du mieux qu'on peut, mais par contre c'est ne jamais arrêter d'essayer de faire du mieux qu'on peut, c'est ça. Et pas juste dire oui je fais de mon mieux, hein, comme une excuse, mais juste de réaliser qu'avec le contexte, si on a une heure de RER le matin, une heure de RER le soir, on a du mal à joindre les deux bouts financièrement et qu'on a pas de coparents pour élever nos enfants, on peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui travaille de chez lui avec l'école à 5 minutes.
Clairement, oui, c'est vrai. C'est sur le temps long, en fait. C'est pas parce qu'on va avoir quelqu'un, un spécialiste, un psychologue ou quoi que ce soit, deux fois que ça va s'arranger. Il y a des choses qui prennent du temps à réaliser. Moi, ça fait 7 ans que c'est un travail en continu, avec des pauses de temps en temps, parce qu'il faut quand même faire des pauses, je pense.
Oui.
Et que c'est important de processer les nouvelles choses qui arrivent, mais c'est du temps long. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que, tu vois, j'avais fait une thérapie pendant ma grossesse et 9 mois après mon accouchement. Et j'ai cru que ça, c'était suffisant et que, ben, comme j'avais plus besoin à ce moment-là, c'était fini, j'avais fait le travail. Sauf qu'en fait, un an après ou 2 ans après, ben, il y a des choses qui sont revenues et j'ai recommencé un travail. Donc, en fait, c'est ça, c'est que c'est des petites bribes, des petites phases.
C'est les couches des oignons, quoi.
Exactement.
À chaque fois. Et c'est pas et un parfois, échec. Ouais. Parce que parfois, ça peut être vu comme ça, genre « Ah, je dois retourner voir le psy » ou même « Ah, je dois aller voir un psy ».
Non.
C'est pas un échec, c'est reconnaître ses besoins et demander de l'aide. Alors ça, c'est très difficile pour certaines personnes de demander de l'aide. Vraiment, je mesure à quel point. Mais c'est pas un échec. Et effectivement, il y a des couches d'oignons. Et donc, c'est vrai que c'est long. Ça prend du temps.
Exactement. Et puis, c'est comme, en fait, juste si ta première phase de thérapie, de travail est terminée, mais en fait, il faut un temps d'adaptation, de vivre avec cette nouvelle phase, justement. Ça prend 1 an, 2 ans. Et en fait, le cerveau est très, très bien fait. Hein. Il nous envoie les signaux quand on est prêt à les recevoir. Mmh. C'est d'ailleurs à ça que sert l'inconscient. C'est pour ça qu'il y a aussi des amnésies traumatiques, par exemple. C'est de la protection. Le cerveau nous envoie les informations et les signaux quand on est prêt. Mmh. Donc, s'il faut 2 ans après une thérapie que d'un coup, on en a besoin, c'est juste le cerveau qui nous dit « Hey, t'es prête à aller à l'étape supérieure ?» Donc, en fait, le voir comme un truc négatif de « je suis en échec », non, je suis prête à aller encore plus loin. Et aller
prochain
encore
niveau,
plus
j'ai
haut.
Débloqué.
Exactement, je level up.
Voilà.
Pour les adeptes de jeux vidéo.
C'est clair.
Mais c'est vraiment, peut-être en le voyant comme ça, c'est vachement plus positif aussi de dire « Ouais, cool, j'étais là, j'ai vécu un temps là, et puis maintenant je vais au-dessus. » Alors, je fais des gestes, c'est un podcast, vous ne les verrez pas. Mais je fais des gestes avec mes mains pour montrer les niveaux. Mais voilà, c'est pas un échec si on doit retourner voir quelqu'un, si on fait une autre approche aussi thérapeutique en plus, ça peut pas forcément être la même chose, c'est juste vous level up.
Exactement, et puis c'est un grand puzzle avec différents morceaux quoi.
Ouais. Tu étais coach parental avant d'avoir des enfants ?
Non, je voulais être coach en entreprise, et puis la parentalité c'est mise au milieu. Alors Il y a un point commun quand même, c'est que maintenant j'essaye d'aller parler de parentalité en entreprise, ouais. Qui est un sujet aussi qui est important. Mais non, c'est vraiment la parentalité qui m'a mis sur la voie de ma reconversion.
Ouais. Du coup, ça veut dire quoi être coach parental ?
Alors, c'est un métier qui n'est pas réglementé, donc je vais te donner ma définition, mais en vrai, il n'est pas très cadré. Pour moi, être coach parental, c'est vraiment accompagner les familles dans le sens une famille voit, on en parlait tout à l'heure, tu vois, reconnaît qu'il y a une difficulté, qu'il y a une question, qu'il y a une information qui lui manque, ça peut être tout un tas de choses, un comportement que la famille ne comprend pas et voudrait changer. Et c'est accompagner cette famille jusqu'à atteindre un objectif de mieux. Et moi, je le fais de la manière suivante, c'est que je vais beaucoup écouter les familles, parce que si les familles... elles avaient une solution toute faite et le bouton magique dont je parlais aussi tout à l'heure pour ma fille. Tu lis un livre, t'écoutes des podcasts et après tu appliques et c'est bon. Mais en fait, moi, la manière dont je le fais, c'est vraiment je rentre dans l'histoire de la famille. Comment est-ce qu'ils sont devenus parents ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à la situation qui les amène à ce moment-là ? Et on essaye de... Avec l'écoute, déjà, ça libère énormément de choses. Il y a beaucoup de parents qui ont besoin de parler. Et à qui ça fait du bien de parler de tout ce qui se passe dans leur parentalité. On peut faire des liens aussi entre la situation du présent et ce qui a pu se passer dans la situation d'avant, qui précède. Et ensuite, quand je les connais suffisamment, je les ai suffisamment écoutés, leur proposer des outils qui soient créatifs et personnalisés à leur situation pour arriver à, encore une fois, à ce que ça aille mieux. Donc oui, parfois ça va être des infos sur les étapes de développement de l'enfant. Parce que j'en sais rien, c'est pas arrivé, mais une famille qui dit oui, il mange pas avec sa fourchette, l'enfant a 9 mois, bon bah on va donner l'info qu'en fait il faut des compétences pour manger avec des couverts. Parfois c'est juste ça, et du coup ça change le regard du parent sur l'enfant et il se dit ok, en fait c'est normal. Et parfois c'est plus adapté à la situation de la famille, adapter un espace, adapter un comportement, passer par le jeu, par plein de choses, pour me mettre en fait au service de la relation parent-enfant. Et que ce soit cool, en fait, qu'on en profite, et que ce soit pas juste une charge et un truc qu'on comprend pas et qui nous épuise.
Ouais, carrément. Est-ce que ta façon de travailler, du coup, parce que t'es indépendante, oui. Te permet d'avoir un meilleur équilibre avec cette petite famille atypique ?
Totalement. En fait, je sais pas comment je pourrais concilier aujourd'hui la neuroatypie de, enfin ma parentalité atypique, hein, parce que j'ai aussi une parentalité atypique du coup, avec un boulot du lundi au vendredi toute la journée. Donc après, c'est un véritable choix et je le relie encore une fois à mes privilèges parce que financièrement, c'est un choix qui est, enfin c'est tranché quoi. Je gagne moins d'argent que quand j'étais en entreprise, mais clairement, je gagne en point de parent, je sais pas, ça a une valeur aussi, ouais. Le métier de parent, c'est un métier aussi. Et j'exerce beaucoup mieux mon métier de parent avec cette flexibilité-là. Mais ça m'a demandé un gros travail sur l'argent, la notion d'argent, de productivité, etc. Hein, ça n'a pas été évident, mais oui, clairement, ça m'aide.
Carrément. Et puis, en fait, tu vois, tu as ce côté privilège. C'est un privilège d'avoir du temps, tout ça. Mais en même temps, c'est parce que tu es dans une situation peut-être qui est possible financièrement, mais c'est aussi une précarité. Oui. C'est aussi une précarité qui est induite par une situation particulière. Et je pense que les parents d'enfants atypiques, d'enfants avec des particularités telles que le TSA, le TDAH et tout ça, mais aussi les parents d'enfants qui ont des pathologies, en fait, sont précarisés, clairement. Parce que notre société n'est pas faite pour les parents d'enfants différents ou malades, en fait. C'est pas très adapté, donc ça amène quand même une certaine précarité. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est confortable, mais si demain, il y avait autre chose, en fait, tu serais dans une précarité.
Et c'est confortable pour moi avec ma vision des choses, parce qu'en fait, il y a des gens devoir renoncer à leur carrière, par exemple, et faire ce choix-là. Enfin, par exemple, le coparent, mon mari, lui, il n'aurait jamais pu, tu vois. Lui, il aime son travail, il aime être au travail et il aime ses enfants aussi, hein, évidemment, mais ça aurait été un choix qui aurait été beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, il y a ça. Et ce qui m'a aidée aussi, parce qu'on a parlé du syndrome de l'imposteur plusieurs fois, que je le connais bien, celui-là, c'est la reconnaissance du handicap de ma fille. On a reçu un courrier donc, de la MDPH, qui est l'organisme qui peut donner des aides financières aussi aux familles d'enfants handicapés, handicap visible et invisible, physique et autres. Et la reconnaissance, elle est dans une tranche à plus de 50% de handicap. Ça m'a fait bizarre de voir ce mot. Mais je me suis dit, OK, donc les choix que je fais, les choix qu'on fait, les adaptations qu'on met en place, elles sont justifiées aussi quelque part.
Ouais. OK. Merci Marie pour cette conversation.
Merci,
c'était
Élise,
trop chouette.
C'était chouette de parler de tout ça.
Bah oui, franchement, c'est j'ai grandement apprécié cet échange. Je pense, j'espère en tout cas que ça parlera à plein de gens, que ça pourra les aider. Si jamais on veut te contacter, si jamais on veut papoter avec toi, par où ça se passe?
Alors, surtout Instagram, donc pas avec mon nom, mais sur Parentalidée, où d'ailleurs, il y a plein de contenus qui, j'espère, pourraient servir aussi aux parents qui nous écoutent. Et donc, après, dessus, il y a mon adresse mail, il y a mon site. Donc, mais le premier canal, je pense, pour voir un peu comment je fonctionne, c'est Insta.
Ok. De toute façon, ce sera tagué en description du podcast et aussi sur Instagram à la diffusion de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, pour ces précieux mots qui, je pense, aideront pas mal de gens. Et pour ce témoignage, merci de nous avoir donné tout ça.
Merci de m'avoir donné la parole. Merci Élise.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Claude Choco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Claude Choco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.